Passagem de Nível, com Artur Silva.
Muito Artur, cá estamos nós, neste domingo dia 14 de outubro, e vamos falar aqui para já. Atendimento no consulado, aparentemente consulado de Paris, aparentemente fala-se de mais 5 funcionários, só em 2022. Falaremos igualmente a atualização dos cadernos eleitorais e o voto nas eleições legislativas antecipadas do dia 30 de janeiro, uma entrevista que realizámos com o Consul de Portugal em Paris, Carlos Oliveira, que por razões de agenda institucional não pode estar em direto connosco. E precisamente a propósito dessas eleições antecipadas, teremos de Portugal via telefone o presidente do grupo parlamentar do PCP, João Oliveira, que nos vai falar do chumbo do Orçamento Geral do Estado para 2022 e que motivou a dissolução da Assembleia da República. Falaremos igualmente da longa metragem documentário Fantasmas do Império, da realizadora Arielle de Bigot, um filme que retraça o imaginário colonial do cinema português desde o princípio do século XX. Na segunda hora, pois bem, iremos falar de teatro, mas igualmente de música, com o espetáculo Saudade, no Festival de Novembre en Normandie, dias 19 e 28 de novembro. Nos estúdios vamos ter Isabel Ribeiro, atriz e autora do espetáculo, Dan Inker, músico e ator, e o encenador da peça via telefone, Alexis Dessau. E falaremos igualmente do encontro mensal da Associação Gaivota do dia 21 de novembro, como já é hábito em Bruxelas, com a presença da fadista Mónica Cunha nos estúdios. Nos estúdios teremos a fundadora e presidente da Gaivota, Maria José Henriques. Para já, novidades a nível do consulado, com novos funcionários a regresso de 2022, mas para já quisemos falar a propósito do voto. Voto por correspondência nestas eleições relativas do dia 30 de janeiro, e o voto é possível e é a única possibilidade, mas não só. Mas enfim, a resposta aqui vem do Conselho de Portugal em Paris, Carlos Oliveira.
Exatamente, essa é a regra, é esse dispositivo que foi montado, definido e estabelecido por lei, e portanto de resto foi assim decidido para maior conveniência das pessoas. Como se sabe, foi um avanço importante o facto das pessoas não terem que se deslocar aos postos consulares para poderem votar para a Assembleia da República. É um aspecto muitíssimo importante. Neste momento o voto é feito por via postal, portanto as pessoas interessadas, aqueles que constam dos cadernos de recenseamento, poderão fazê-lo sem nenhuma dificuldade maior, uma vez que receberão no seu endereço o boletim para votar, o subscrito, inclusive até o subscrito selado, portanto o valor dos selos, etc. Portanto, a única coisa que têm que fazer é escolher, enfim, dar o voto a quem tenha a preferência e colocarem o subscrito no correio, depois lá introduzirem o boletim de voto, não é? Portanto, é de uma simplicidade total e julgo que é uma medida importantíssima para tentar justamente fazer com que as pessoas participem na vida política portuguesa, que é disso que se trata.
Mas, Sr. Cónsul, há uma possibilidade também de votar presencialmente para estas legislativas ou unicamente via correio?
Não, a lei prevê também a possibilidade de votar presencialmente, mas, digamos, a título excepcional. Quem o desejar fazer, pode fazê-lo, deverá fazer saber disso, pese a sua intenção, a Comissão Recenseadora, mas deverá fazê-lo até que seja publicado um despacho com a indicação da data das eleições. Portanto, o despacho presidencial estará aí a ser preparado, estará em vias de ser publicado, e esse pedido expresso, e como digo, de certa maneira excepcional, para que se possa votar presencialmente, terá que ser feito até essa altura. Devo-lhe dizer que, no passado, da experiência que tivemos, apenas 4 ou 5 pessoas manifestaram essa vontade, daí resultou um caderno específico, uma listagem específica para esse efeito, e nós, inclusive, mobilizamos a abertura de mesas para que essas pessoas pudessem votar. Até ao momento eu não tenho ninguém nessas condições que eu saiba, embora isso seja apurado pelo próprio sistema eleitoral, e, portanto, porventura teremos uma listagem de alguém que tenha manifestado esse interesse, mas não manifestou aqui diretamente à Comissão Eleitoral, como, enfim, tanto quanto os números agora demonstram. Ou seja, nós não temos ninguém, pelo momento, não temos ninguém nessas condições. E como digo, obviamente nós faremos o necessário. Se pessoas houver que queiram votar presencialmente e que tenham preenchido esses requisitos, nós abriremos as respectivas mesas de voto, mas obviamente que nós também temos interesse, e acho que todos nós, em favorecer um dispositivo que é muito mais leve, muito mais fácil para quem pretende votar, e também convenhamos, mais fácil para a administração, porque obviamente esse encargo de abrir as mesas deixará de verificar se não houver pessoas nessas condições. E, portanto, o que me parece que é importante frisar é que este voto é um voto por via postal, foi essa de resto uma, digamos, um avanço importante, uma conquista importante para que as pessoas possam fazer exercer o seu direito de voto sem grandes entraves ou sem nenhum entraves, e portanto acho que é bom assinalar que essa é a maneira de votar para as eleições para a Assembleia da República, sem prejuízo de existir essa outra modalidade, desde que seja feita nessas condições que eu acabei de referir.
Sr. Cónsul, normalmente os cadernos eleitorais estão encerrados 60 dias antes da eleição. Exato. A eleição está agendada para o dia 30 de janeiro, significa que a partir do dia 30 de novembro é impossível já uma pessoa inscrever-se, ainda que uma boa parte dos imigrantes, há o recenseamento automático com o cartão de cidadão, de maneira que é importante essa atualização dos cadernos eleitorais.
Sim, quer dizer, as coisas estão um pouco mais facilitadas e eu diria mais coerentes, não é? Que é também importante que o cidadão compreenda que se tem interesse em votar em França, se tem o seu cartão de cidadão, convém que exista uma coincidência entre uma coisa e outra. Aliás, é importantíssimo que assim seja, de outra maneira não figurará nos cadernos eleitorais, não é? Nomeadamente aqui em Paris ou em qualquer outro sítio. Mas neste momento, torna definidor da condição é aquilo que resulta do cartão de cidadão. Por isso mesmo, quando alguém se vem fazer o cartão de cidadão, nós alertamos para esse facto. As pessoas saberão que têm que ter a morada para efeitos eleitorais é aquela que resulta da que escolheram para o cartão de cidadão. Não é? Portanto, esse aspecto é bastante importante. Os cadernos refletem isso mesmo, ou seja, estão nos cadernos as pessoas que tomaram devido cuidado de colocar essa morada no cartão de cidadão. Isto tem efeitos, portanto, quem for confirmar a sua presença nos cadernos não poderá estranhar se porventura a sua morada do cartão é diferente daquela que pretendia resultar no caderno eleitoral. E, portanto, penso que apesar de tudo é uma coerência que faz sentido e, de resto, não tem levantado grandes problemas. Basta ver que temos aumentado, apesar de tudo tem aumentado de uma forma consistente, ou aumentou de uma forma consistente o número de inscritos. Só para lhe dar uma ideia, a França tem 400 e tal mil inscritos e nós aqui na zona de Paris estamos em torno dos 250 mil. Portanto, enfim, não é expressão da totalidade da comunidade, repare que também estamos a falar de pessoas com capacidade para votar, portanto maiores, não é? Portanto, mesmo assim já é um número muito mais significativo do que era no passado. E portanto, enfim, é um aspecto que deve ser sublinhado, ou seja, o universo não é um pequeno universo, é um grande universo com 250 mil pessoas, não é?
Ora, Sr. Cónsul, no site do Consulado-Geral de Portugal em Paris, há já um artigo, recenseamento eleitoral confirma o seu local de recenseamento. Depois temos que ler, consulta dos cadernos eleitorais, número de identificação civil, ou seja, o número do cartão cidadão, data de nascimento. Por exemplo, para aqueles que mudaram de endereço entre a altura em que fizeram o cartão cidadão e hoje, pode-se modificar o endereço para que possamos...
Deverão promover a alteração do endereço, que vai ter efeito nas duas situações e, portanto, até a essa data que me refere, 2 meses anteriores à data de eleição, os cadernos são alteráveis e, portanto, passam a integrar os cadernos e, por isso mesmo, é que é muito importante e oportuno, de resto, este contacto que entendeu estabelecer connosco, porque ainda há aqui dias, ainda há aqui tempo até ao fim do mês, para que as pessoas possam promover essa alteração e até procederem ao seu recenseamento, não é? Mas sobretudo à alteração de morada. É claro que há aqui um aspecto menos positivo, é que, obviamente, se não tiverem o cartão válido, tiverem de ter um novo cartão, isso pode levantar algumas dificuldades, dado o facto de ser termos um prazo tão longo para marcação de pedidos de cartão de cidadão. Mas, enfim, nós tentaremos acomodar o melhor possível quando essa situação se configurar e se configurar. Não? As pessoas podem mudar a morada, mais complicado será se têm que pedir novo cartão.
E a esse propósito, o Sr. Consulado abordou a situação. Qual é a situação hoje no Consulado-Geral de Portugal em Paris? Tanto mais, bom, temos o Natal à porta e nós já sabemos que os meses de novembro e dezembro são difíceis aí para os funcionários.
Bem, saindo um pouco desta temática das eleições, de facto, essa é uma preocupação muito grande, não é nada que eu tenha escondido nos últimos meses. Nós temos tido muitas dificuldades para dar conta dos enormes fluxos de pessoas e dos pedidos, numerosos pedidos, sobretudo para cartão de cidadão, mas agora, desde que houve um certo normalizar da situação do ponto de vista do Covid, também de passaportes, porque as pessoas começaram a achar que podiam viajar, porque enfim, agora já não haveria limitações. Vamos ver, oxalá, a situação não se complique, parece que já está a complicar em alguns sítios, como sabe. Mas seja como for, a verdade é que isso para nós é uma preocupação grande. Felizmente, temos uma notícia positiva, não vai há muitos dias, aqui há pouquíssimos dias, que é a possibilidade de contratação de mais pessoal. E esse aspecto é fundamental, porque realmente, se nós não tivermos pessoal bastante, nós não conseguimos dar conta dos pedidos que temos, não é? E, portanto, esta última notícia, com mais 5 efetivos, é uma notícia que me tranquilizou e que me deu algum ânimo, porque realmente, e a todos nós aqui, à equipa toda, porque a situação estava muito, muito complicada, não escondo. As pessoas protestam, e protestam com alguma razão, porque é muito difícil fazer marcações, e de facto as marcações estão muito alongadas no tempo. Espero que no ano 2022 nós possamos ir combatendo isso de uma forma sustentada, e que se porventura tivermos ocasião de falar mais lá para o meio do ano, já tenhamos um cenário bastante melhor do que aquilo que temos hoje.
Mas essa contratação local é para breve? Já tem uma data?
Temos uma autorização do Ministério das Finanças, que é, do meu ponto de vista, o aspecto mais importante.
Mais importante, com efeito, pois.
Porque já estávamos há um ano e tal à espera disto, e já tínhamos feito saber que a situação era complicada. A senhora Secretária de Estado empenhou-se diretamente também neste processo, e, portanto, ninguém ignorava que, com funcionários a partirem para a reforma, alguns funcionários de baixa, enfim, algumas decorrências ainda do Covid, inclusive, que nós não precisaríamos do reforço. Nós precisávamos e continuamos a precisar de um reforço sustentado dos recursos humanos. Porque, como sabe, não é? A pressão é enorme, a comunidade é gigantesca e nós não notamos nenhum decréscimo dos pedidos. Temos a imensa dificuldade em fazer as marcações em tempos razoáveis, não é? Sobretudo na matéria de cartão de cidadão. Não é assim, infelizmente, em todos os domínios, mas na matéria de cartão de cidadão, sem qualquer dúvida. O que, aliás, repare, não é absolutamente caso único de Paris, bem pelo contrário, é uma coisa que tem sucedido na administração, foi também, enfim, resultado das complicações decorrentes do Covid, não é? As marcações que se perderam, os tempos em que não se pôde trabalhar com o mesmo número de pessoas, etc. Portanto, não se sente, embora eu compreenda que quem socorre dos serviços é isso que penaliza, mas não se passa só aqui em Paris, inclusive também se passa na administração francesa, como se sabe, não é?
E em Portugal também, aliás, em Portugal também houve problemas também.
Mas como eu digo, estou auspicioso, acho que estas últimas notícias são boas notícias. É evidente que o efeito não é imediato, nós não contratamos pessoas de um dia para o outro, é um processo que está estabelecido na lei, portanto nós temos uma série de demarches a fazer e o processo concursal tem os seus trâmites e tem que ser observado. Mas mesmo assim é um sinal muito positivo e repare, é a primeira vez ao longo, enfim, talvez nos últimos 10 anos, em que há efetivamente uma disponibilização por parte das finanças de meios humanos minimamente consequentes, porque 5 funcionários já é consequente.
Senhora Consul, muito obrigado. E talvez voltando ao princípio da nossa conversa, votar é um direito, mas é antes de mais um dever, não é?
Sim, eu julgo que acho que é muito importante que nossos nacionais que estão aqui não percam de vista o interesse de se envolverem na vida política de Portugal. Eu compreendo, à medida que as pessoas se afastam mais do país e têm a sua vida, e também é importante, por sua vez, participem na vida política francesa. Aliás, basta assinalar o aumento significativo dos eleitos de origem portuguesa, que tem sido sempre crescendo, e portanto isso é bom sinal também, mas uma coisa não exclui a outra, e participar no ato eleitoral enquanto português é não só reforçar os laços com Portugal, mas mostrar o seu interesse por o funcionamento das instituições, pela própria democracia, né? Porque, pelo menos do ponto de vista formal, não há dúvida que as eleições são uma expressão máxima da democracia. E, portanto, julgo que é importante que os portugueses participem, e esta batalha não é a batalha de agora, como sabe, é a vossa, é a nossa, é todos nós aqui que temos interesse em que a comunidade marque presença, e com certeza que os números não são, enfim, tão significativos como nós gostaríamos. Votaram aqui 27 mil pessoas para estar os 250 mil, mas de qualquer forma é preciso é continuar a insistir, fazer com que as pessoas, tanto mais que agora é tão simples proceder ao ato eleitoral, ao ato do voto, pois nessa altura continuar a insistir para que as pessoas deixem um bocadinho do seu tempo, dispensem um bocadinho do seu tempo para esta participação, que é uma maneira de mostrar presença. E também, de algum modo, é o contraponto das políticas que são desenvolvidas em favor da imigração e as várias opções que se apresentam nessa matéria. Não é? E, portanto, eu sou profundamente entusiasta de que as pessoas venham participar e que realmente vejam esse direito, que é um direito tão importante, também, de certa maneira, como um correlativo dever, mostrar que estão atentos e que querem saber dos destinos do país.
E nós estamos aqui para relembrar isso precisamente aos nossos ouvintes. Sr. Cónsul, muito obrigado e bom trabalho então aí para si e para os
funcionários. Muito obrigado pela oportunidade, obrigadíssimo. Bom trabalho também, obrigado.
Palavras do Consul-Geral de Portugal em Paris, Carlos Oliveira. Para já uma boa notícia para a comunidade portuguesa da área consulado de Paris. Mais 5 funcionários. O concurso local vai ser aberto. Provavelmente esses funcionários vão entrar em função. Talvez no início do mês de setembro veremos. Falámos igualmente nas eleições legislativas antecipadas do dia 30 de janeiro. Assim decidiu o Presidente da República na sequência do chumbo do orçamento. Chumbo esse que vem da parte do Bloco de Esquerda, mas igualmente do PCP, e precisamente é sobre esse voto do Partido Comunista Português que vamos falar agora. João Oliveira, muito boa tarde, bom dia para si.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alfa, espero que seja toda a gente de saúde. Nesta altura isso é de facto o mais importante. Eu queria deixar em primeiro lugar o agradecimento pela possibilidade de estar hoje aos vossos microfones.
Aliás, já começamos com os dois deputados eleitos pelo Círculo da Imigração. Contactámos igualmente o Presidente do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, mas não tivemos resposta. Agora, João Oliveira, relembra, é Presidente do Grupo Parlamentar do PCP, deputado eleito em Évora. Para já, este chumbo, podemos dizer que de uma certa forma era previsível, mas, bom, parece que não. O PCP, durante 6 anos mesmo, finalmente, bom, avalizou 2 governos.
Bem, eu diria que não era previsível e que até ao limite das nossas possibilidades nós fizemos um esforço para que houvesse orçamento e sobretudo para que houvesse um bom orçamento que desse a resposta às necessidades do país. Eu julgo que aquilo que está hoje à vista é que por muito grande tivesse sido o esforço do PCP, na verdade o governo parece que não queria ter um orçamento porque queria precipitar eleições para ir atrás do objetivo de ter uma maioria absoluta. Eventualmente entendeu que esta era a altura para fazer isso, considerando a situação do PS e do CDF, mas eu julgo que verdadeiramente começa a ficar à vista de toda a gente que não há orçamento porque, de facto, aquilo que o PS queria ir para eleições e ter uma maioria absoluta.
Mas, precisamente, quais foram aqueles pontos essenciais que o PCP disse não, daqui não transigimos?
Bem, sabe que não houve exatamente nenhuma matéria daquelas que fomos discutindo com o Governo desde julho em que nós tivéssemos dito isso. Aquilo que houve foi, de facto, uma falta de resposta por parte do Governo. Há algumas questões, nós discutimos com o Governo um conjunto muito alargado de medidas para problemas que são reais do país, dos portugueses, e que precisam ter solução. Ao longo das semanas mais perto ali da discussão do orçamento, acabámos por concentrar atenções em 5 ou 6 matérias mais relevantes, portanto, as questões dos salários, incluindo o salário mínimo nacional, as questões das pensões, das creches, da habitação, do Serviço Nacional de Saúde, que é hoje uma das maiores urgências que o país tem em termos de medidas que são necessárias para salvar, digamos assim, esse serviço público que garante os cuidados de saúde aos portugueses. Portanto, digamos assim, nessas 5 ou 6 matérias acabámos por concentrar mais atenção nas últimas semanas. Ainda que em relação a algumas delas a resposta que foi dada pelo Governo ainda permitisse que mais à frente eventualmente se pudesse discutir melhor e aprofundar melhor a solução em concreto a adotar, a verdade é que houve algumas matérias em relação às quais não houve da parte do Governo sequer consideração daquilo que era necessário fazer. Nós na altura admitíamos a possibilidade do Governo estar a levantar digamos assim, dificuldades ou resistências à semelhança daquilo que tinha acontecido com anos anteriores, mas acabámos por constatar que essa resistência foi, foi muito maior do que anteriormente e em alguns casos de difícil explicação. Eu dou apenas dois exemplos que me parece que são claros em relação a isso. Em relação à proposta do salário mínimo, o PCP adiantou três possibilidades distintas enquanto o Governo não saiu da posição inicial que tinha, recusando todas as possibilidades que nós adiantávamos. Em relação ao Serviço Nacional de Saúde, havendo aparentemente o acordo da parte do Governo com aquilo que nós estávamos a propor, o Governo não esteve disponível para pôr por escrito, digamos assim, as funções que haviam de estar integradas no orçamento do Estado para poderem valer a partir do dia 1 de janeiro de 2022. E, portanto, não foi propriamente um exercício de intransigência por parte do PCP. Nós apresentámos até ao Governo várias hipóteses de solução para os problemas que tínhamos identificado. Aquilo que se verificou foi que o Governo não quis efetivamente dar essa resposta que era necessária. Nós percebemos hoje porque é que o Governo deu essa resposta. Aliás, ainda o orçamento não estava votado e chumbado e já o Primeiro-Ministro fazia apelos à maioria absoluta. Eu julgo que foi efetivamente essa perspectiva de poder ter uma maioria absoluta que pesou na cabeça do Governo e que acabou por conduzir a essa falta de resposta às questões que nós fomos adiantando.
Mas João Oliveira, por exemplo, no que diz respeito às creches, aparentemente o Primeiro-Ministro e o Governo PS foi no sentido daquilo que vocês queriam, não? Porque há coisas que vão ser, já foram aplicadas ou vão ser aplicadas.
Olha, o exemplo das creches talvez seja um daqueles em que, digamos assim, mais espaço havia ainda para se poder encontrar a solução para essa questão. O que é que estava em causa? Nós nos últimos dois anos conseguimos, de facto, que houvesse avanços em relação à gratuitidade das creches e, portanto, já hoje há algumas dezenas de milhares de crianças que têm a creche gratuita, precisamente porque essa medida foi por diante, com a nossa insistência, conseguiu-se que as crianças do primeiro e do segundo escalão tivessem já a creche gratuita. O que nós estávamos a discutir com o Governo era não apenas a definição de um calendário para que permitisse a prazo identificar um momento a partir do qual a creche estaria gratuita para todas as crianças, mas simultaneamente um investimento que é preciso fazer-se na criação de novas creches e de vagas em creches. E isto porquê? Porque há uma estimativa que aponta para que haja em Portugal neste momento 100 mil crianças que não têm vagas em creches, principalmente porque as creches não existem. E, portanto, desse ponto de vista, era preciso canalizar alguns recursos públicos para a construção de creches, para a criação de vagas em creches, numa rede pública, ainda por cima, com os milhões que aí vêm de fundos comunitários, parecia-nos que essa era uma das opções que devia ser feita. Ora, é verdade que o Governo admitiu que pudesse haver algum avanço relativamente à gratuitidade das creches e que já em 2022... as crianças que vão para a creche pela primeira vez possam todas elas ter a creche gratuita, e nós admitimos que esse possa ser um passo a dar, e de resto não damos isso por perdido, e portanto de resto temos em discussão neste momento um projeto de lei na Assembleia da República que ainda pode ser aprovado até dia 26 e que pode garantir precisamente o cumprimento dessa medida. Mas em relação à questão do investimento que é preciso fazer numa rede pública de creche, não houve da parte do Governo qualquer consideração relativamente a isso. Nós admitíamos que essa questão pudesse ser uma questão a discutir numa fase de especialidade do orçamento, havendo esta primeira votação que permitisse a passagem do orçamento, que essa questão pudesse vir a ser discutida depois. O problema é que nós não encontramos, na parte do Governo, em relação às outras matérias, essa abertura e essa resposta que era preciso que fosse dada para que o orçamento pudesse vir a ser discutido. Pronto, e agora temos pela frente umas eleições no dia 30 de janeiro.
Ora, também as críticas que vocês fazem, crítico, bom, não são os únicos, não é? Relativamente à situação. Ora, uma grande precariedade devido à Covid, a situação laboral também, bom, etc, 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 de maneira que vocês consideravam que as medidas necessárias para combater essa precariedade não faziam parte do orçamento do Estado para 2022?
Sim, havia muita coisa que estava, digamos assim, relegada para segundo plano pelo Governo e que era preciso fosse considerada de outra forma. Deixe-me talvez pegar em dois ou três aspectos que vão diretamente a esta questão que estava a colocar. Apesar da precariedade e da desregulação dos horários de trabalho em Portugal já ser uma situação muito, muito marcada antes da epidemia, é evidente que a epidemia veio trazer problemas acrescidos em relação a isto, não é? O facto de ter havido setores de atividade que tiveram fechados durante muito tempo e que, com a justificação da recuperação pós-pandemia, que era preciso assegurar estão neste momento a colocar-se situações de trabalho por turnos e trabalho noturno em áreas onde antes isso não existia, com tudo o que isso implica, quer dizer, trabalhadores que deixam de ter noção o que é dia e o que é noite, com desregulação dos horários de trabalho, sem conseguirem articular os horários com a mulher ou o marido, com os horários das escolas ou das creches das crianças, portanto, com tudo o que implica essa desregulação dos horários de trabalho, com situações de precariedade que a epidemia veio transformar em situações de desemprego. Ou seja, nós verificámos logo em 2020, os trabalhadores em situação precária foram os primeiros a ser despedidos e os primeiros a ficarem sem qualquer tipo de não só de emprego, mas até em algumas circunstâncias de rendimento. E estamos neste momento a assistir à autorização da Covid ainda como pretexto para levar por diante despedimentos coletivos que todas as semanas acrescentam mais umas dezenas de trabalhadores sujeitos a essa situação do desemprego. Ora, e tudo isto precisa de ser considerado com soluções que, não sendo soluções que devem ser integradas na lei do orçamento do Estado, porque as soluções para esses problemas não são propriamente soluções do orçamento do Estado, mas têm que ter uma consideração para que haja uma resposta global, digamos assim, aos problemas do país. Ora, aquilo que nós verificámos ao longo desta discussão que fomos fazendo com o Governo foi de facto uma grande resistência a que essas soluções pudessem ir por diante e a recusa daquilo que podiam ser medidas imediatas e urgentes para que esses problemas fossem atacados. Ora, se estes problemas não são atacados, naturalmente o orçamento do Estado depois servirá de pouco, né? Porque mesmo que no orçamento do Estado fossem encontradas soluções para os problemas que ali são tratados, se depois as pessoas ficam sujeitas a perder o emprego, a perder o salário, a perder as suas condições de vida, a verem de repente, por via do desemprego, uma família inteira ficar numa situação complicada, convenhamos que isto não são problemas de pouca monta e, portanto, esses foram também elementos que pesaram, digamos assim, no percurso que foi sendo feito, não só na discussão com o Governo, mas até no desfecho da discussão do orçamento.
Sim, há questões também que têm a ver com o diálogo entre os parceiros sociais e tudo. Uma questão ainda, e depois gostaria que avançássemos sobre outro tema, é precisamente de Bruxelas. Fala-se de centenas de milhões de euros que vão ser distribuídos por um certo número de países. Portugal também devia ter uma parte dessa soma. Essa soma entraria já no Orçamento Geral do Estado para 2022. Será que vocês analisaram a situação?
Bem, há uma previsão de Portugal poder vir a dispor 3 mil milhões de euros no curto prazo de financiamento comunitário para um conjunto de objetivos que a União Europeia definiu. Em alguns casos esses objetivos não estão propriamente alinhados ou em correspondência com aquilo que são as necessidades prioritárias do país, mas de qualquer forma é um conjunto muito significativo de recursos europeus que ficam à disposição de Portugal para, digamos assim, de alguma forma compensar os prejuízos sofridos pelas políticas comuns que são determinadas pela União Europeia. Ora, era preciso que, particularmente num momento como este que estamos a viver, ainda a sair da situação da pandemia, a tentar recuperar a economia, a tentar recuperar a situação social do país, era preciso que esses recursos estivessem, de facto, ao serviço do país. E, portanto, digamos assim, que aquele argumento tradicional que é utilizado de que não há dinheiro, não há dinheiro, não há dinheiro, desta vez não era exatamente assim que as coisas se colocavam, porque há, de facto, montantes muito significativos de dinheiros europeus que podem ser utilizados e também desse ponto de vista era preciso definir prioridades, identificar prioridades para eles poderem ser utilizados. Ora, uma das partes da discussão que fomos fazendo com o Governo também tinha que ver com isso. Fosse a propósito do Serviço Nacional de Saúde, das questões da habitação, das questões das creches, das questões dos lares que continuam também a faltar para dar resposta às necessidades dos idosos em Portugal, havia muitas áreas em que era preciso fazer opções e opções decididas de investimento público para resolver esses problemas aos cidadãos. Bem, nada disso fica posto em causa, porque os fundos europeus virão e eles podem ser utilizados à mesma. Agora, é preciso é que das opções nacionais, em relação às opções nacionais, elas sejam feitas de facto para que esses dinheiros sejam utilizados para resolver problemas que são urgentes e que não sejam propriamente usados para esbanjarem coisas que não servem ao país. E João que Oliveira, continua a colocar em cima da mesa.
João Oliveira, rapidamente, eu gostaria de passar-vos um pequenino som, resta-nos à volta de 2 minutos, assim, mas enfim, já há anos e anos que dizem o Partido Comunista vai morrer, está morto e por aí fora. Eu gostaria que ouvíssemos aquilo que afirmou o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, ontem em Matosinhos, perante um auditório de jovens. Vamos a isso.
Mas antes de mais, deixem-me partilhar convosco uma ideia. Era o dia em que, nos meios de comunicação social dominante, não surjam comentadores, analistas, alguns jornalistas, a anunciar o declínio irreversível do PCP, como não a sua morte. Se estivessem estado aqui nas ruas de Matosinhos, se estivessem aqui neste convívio, é melhor ir pensando, querem ver que ainda morre primeiro que o Partido Comunista Português?
João Oliveira, rapidamente, o tempo já nos está a escapar, de maneira que vale a pena, de vez em quando, relembrar a realidade?
Sim, eu acho que a realidade tem mais força do que qualquer tipo de projeção que se faça. Repare, nós já levamos 100 anos de história desde que o Partido Comunista foi criado. E já por muitas vezes foi anunciada a morte definitiva do PCP, aliás, precipitando até um anúncio de morte que acabou por ficar mais para a frente do que a morte dos próprios que o anunciaram. E, portanto, eu diria que um partido como o nosso, ligado à realidade da vida dos trabalhadores e do povo português, que tem essa, de facto, essa ligação umbilical com a vida do nosso povo e dos trabalhadores portugueses, é um país que ataca, é um partido que ataca a estar no país durante muito mais tempo, porque naturalmente os trabalhadores e o povo sentem a necessidade deste partido para defender os seus direitos, para defender os seus interesses. E essa iniciativa onde o meu camarada Jerónimo Sousa participou ontem, comemorativa do aniversário da Juventude Comunista Portuguesa, que juntou muitas centenas de jovens comunistas portugueses, precisamente um exemplo disso. Repare como nos dias de hoje, com toda a ofensiva que é feita contra o Partido Comunista Português, com todas as mentiras, todas as calúnias que sobre nós são ditas, repare que há centenas e centenas de jovens que, pela sua experiência de vida, pela sua experiência própria, acabam por encontrar no Partido Comunista Português e na Juventude Comunista Portuguesa o sítio onde querem participar politicamente e intervir politicamente para defender os seus direitos e os seus interesses. Eu julgo que isso é a melhor afirmação das perspectivas de futuro que este partido continua a ter e que certamente os portugueses, os trabalhadores e o povo português continuarão a querer manter vivo nas suas vidas e nas suas perspectivas de futuro.
João Oliveira, muito obrigado, Presidente do Grupo Parlamentar do PCP. Evidentemente, agora, eleições legislativas antecipadas para o dia 30 de janeiro, no que diz respeito à comunidade, as comunidades portuguesas que residentes por esse mundo fora, o voto é por correspondência. Muito obrigado e contamos muito consigo, obrigado, depois para a campanha eleitoral.
Certíssimo, obrigado eu pelo convite. Um bom dia a todos e bom trabalho.
Muito obrigado. c'était pour parler d'un long métrage documentaire et la musique. On est en train d'écouter, c'est justement le générique du film Fantasme de l'Empire, Fantasme do Império. Ariel de Bigot, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir chez vous.
Et boa tarde.
Boa tarde. Est-ce qu'on doit parler en français ou en portugais? Ça m'étonne fort.
Oui, non, on va le faire en français.
D'accord.
Alors, c'est un travail énorme, parce que le film fait documentaire, fait environ 2 heures. Il y a eu tout un travail d'archives, parce que finalement, bon, quand on parle justement du cinéma, l'imaginaire colonial dans le cinéma portugais, depuis le début du 20e siècle, bon, il y a eu tout un travail au niveau des archives, non?
Oui, absolument. Alors, je dois remercier 2000 fois la Cinémathèque portugaise, parce que j'ai pu donc aller, vous savez que la Cinémathèque portugaise dirigée par José Manuel Costa a créé à la fin des années 90 avec Jean-Bernard da Costa un fonds d'archives où sont entreposés tous les films portugais. Et ils avaient récupéré les films produits par l'État portugais à l'époque de Salazar, donc, et qui a beaucoup produit de films de propagande, de colonial, long, court, moyen, etc. Beaucoup de documentaires, quelques fictions, qui sont donc aujourd'hui la propriété de l'État portugais, qui sont à la Cinémathèque portugaise et qu'on peut consulter, mais que personne ne voit. Personne ne voit ces films.
Mais, oui, mais justement, Ariel Bigot, c'est pas pour rien. Parce que, effectivement, bon, il y a, on peut dire, mais d'ailleurs, il y a certains intervenants du film qui disent, avant, on n'en parlait pas du colonialisme, on n'en parlait pas de ceci. Et après, même après le 25 avril, on dirait qu'on a voulu passer sous silence les faits et les traumas. C'est vrai, ça?
Oui. Oui, c'est un petit peu, on peut faire une comparaison, il faut tout de même voir que, peut-être que la colonisation toute seule n'était pas un grand trauma pour le peuple portugais, mais la guerre l'a été. Or, donc le 25 avril arrive à cause de la guerre. C'est tout de même des militaires qui ont fait la guerre et qui en ont marre, et qui ont vu que ça servait à rien, qui font le 25 avril. Et donc, une fois que le 25 avril est fait, tous ces jeunes, ces millions de Portugais, ces familles, parce que peut-être il n'y a pas, comme le dit Yves Ferré, il n'y a peut-être pas une seule famille au Portugal qui n'ait pas eu quelqu'un qui était ou dans les colonies ou dans la guerre. Hein. Et mais cette guerre a été douloureuse, puis ça a été une défaite, c'est ce que dit Jean Boutel, c'est tout de même, on a perdu, quoi, voilà. Donc on n'a pas envie d'en parler, je pense qu'on peut faire une comparaison, puisque je suis française, je me sens capable de la faire, avec la guerre d'Algérie, c'est-à-dire pendant des années, on a raconté n'importe quoi, on n'a surtout pas raconté, bien qu'il y ait eu quelques films français assez vite, de gens d'ailleurs qui étaient plutôt du côté du FLN, hein, en faveur de l'indépendance, qui ont fait des films. Évidemment, là, enfin, la bataille d'Alger, bien sûr, c'est un grand film, mais il est fait pratiquement en 62 ou 63, je crois. Il reconstitue la bataille d'Alger, c'est pas un documentaire. Mais bon, il y a eu d'autres films, Avoir 20 ans dans les oreilles, etc.
Mais Ariel Bigot, on peut avancer un petit peu.
C'était pour dire qu'il y a eu ce silence après le 25 avril, mais qui tout de même... Il y a le film de Max Silva en 1980, il y a le film de Jean Boutel en 1984, mais enfin, on les compte sur les doigts d'une seule main, voilà.
Oui, tout à fait. Alors, c'est étonnant parce qu'il y a des images, je me souviens, les trois Portugais qui sont dans une voiture, ils attrapent un zèbre et ils montent au-dessus, comme s'ils voulaient chevaucher le zèbre, et après, bon, ils disent au revoir, ils les donnent un coup de pied. Je ne sais pas si c'est une métaphore ou pas, parce que quand on voit les films, le cinéma au temps de l'État nouveau, à savoir du temps du fascisme, c'est étonnant. Mais il y a un des intervenants qui dit que le cinéma colonial, c'est toujours une confrontation entre deux regards.
Oui, ça c'est José Manuel Costa, directeur de Cinémathèque, qui le dit. Alors, il y a deux choses dans votre question. La première, c'est que effectivement, c'est une métaphore. Pour moi, par exemple, si je vais peut-être horrifier certains, mais si c'était un Anglais ou un Français qui attrapait un zèbre, il l'emmènerait au zoo. Et là, le Portugais le laisse libre. C'est pas du tout pour dire que les Portugais étaient gentils, mais c'est que le rapport de ces paysans qui sont allés, c'est un film du début du siècle, hein, de 1923, du XXe siècle. Et donc, ce sont des Portugais qui allaient découvrir, ils partaient à la découverte, vous voyez. C'était un esprit un peu comme ça. Bon, ensuite arrive la période fasciste qui organise la colonisation comme la source de richesse et de fonctionnement principal de l'État nouveau. Et là arrivent les films de propagande. Donc, et puis, ça y est, j'ai oublié la deuxième partie de la...
Non, non, c'est ce que j'ai tenté de dire justement, c'est que donc il y avait les regards, je dis les regards croisés.
Ah oui, le double, que, le regard croisé, ouais, c'est ça. C'est ce que dit, c'est-à-dire que par exemple, on voit dans les films d'Antonio Lopes Ribeiro, qui, comme pas mal de gens le savent, a été un grand cinéaste complètement pro Salazar, il adorait Salazar, il a fait des films très importants, Révolution de Mayo, hein, c'est de lui. Il a fait beaucoup de films, on voyait qu'il était passionné par l'Afrique, il a fait des films assez jolis, assez intéressants sur la Guinée, le Mozambique, l'Angola, avec un commentaire épouvantablement colonialiste, horrible et tout, mais les images étaient formidables, et c'est à cause de ça, et en fait, si on regarde ces images aujourd'hui, on voit tout de même une réalité africaine, parce que les images de ces Africains qui regardent la caméra, ou qui la regardent pas, mais qui se sont été filmés par la caméra, ça nous interroge aujourd'hui, voilà. Mmh. Aujourd'hui, ça nous interroge. Et d'ailleurs, les deux Africains, acteurs africains qui sont dans mon film, Un Jeto, Géor de Homser, ils ont été très émus par ça, par ces films-là.
Alors, il y a une phrase du réalisateur Jean Boutel, que je l'ai bien aimé, les découvertes, etc. Mais les découvertes, c'était l'occupation et l'esclavage de l'autre, tout simplement, non?
Oui. C'est ce qu'il dit. C'était une belle histoire au début, l'idée de la découverte, mais en fait, la ganancia, c'est-à-dire la cupidité, a fait que c'est devenu une histoire d'occupation. Et ensuite, ça s'est poursuivi, évidemment, avec l'esclavage. Mais disons que, par exemple, dans les territoires africains, qui ont été vraiment occupés d'une façon plus complète, c'est au XXe siècle, donc après la fin de l'esclavage, ils ont remplacé ça par d'autres formes, les contrats et tout ça, où c'était des situations de quasi-esclavage pour les travailleurs africains, dans les plantations et tout ça. Mais l'occupation du territoire africain commence vraiment à la fin du 19e, début du 20e, notamment Norton de Matos et tout ça. Et avant, il y avait des comptoirs portugais, et puis des forts, un peu d'armée, un peu du commerce, d'esclaves, du commerce de tout. Voilà. Mais la vraie conquête africaine du Portugal, elle se passe en fait après la perte du Brésil. Progressivement, il décide de repartir vers l'Afrique à la fin du 19e. Donc c'est une histoire, ce que je veux dire, c'est une histoire assez complète que je ne prétends pas raconter parce que je ne suis pas historienne. Je montre ce que racontent les films.
Justement, alors Ariel, il y a quelque chose d'intéressant. Alors le film, moi je voulais le rappeler, le film a été déjà sorti en salle au Portugal en juin 2021, il a fait des festivals. Il va être à Paris, concrètement, la Saint-André des Arts, le vendredi 19 à 19h, ça dans le cadre de l'Europe, autour de l'Europe. Alors j'espère qu'on pourra le voir en DVD, etc., etc. Mais ma dernière question, il nous reste environ deux petites minutes, il y a quelqu'un qui a une intervention extraordinaire, parce qu'il a comparé Camões à Fernão Mendes Pinto. Donc Camões, adoré au Portugal, Fernão Mendes Pinto, bon, on se méfie de lui, pourquoi?
Ça c'est parce que il avait une vision critique de la violence portugaise dans les territoires, voilà. Et Camões n'a pas raconté les violences qui ont été faites quand on arrive en Inde, quand on arrive au Mozambique, enfin ça s'appelait pas le Mozambique à l'époque, sur les côtes africaines. Il y a beaucoup de violences, il y a aussi des violences qu'on subit, enfin il y a eu des guerres déjà. Et ensuite, postérieurement, il y a de nouveau une guerre, il y a des guerres d'occupation en Angola, au Mozambique, à la fin du 19e. L'histoire de...
Kourounianyam,
exactement, Mozinda Bouquet, tout ça, il y a de la violence et il semblerait, enfin je me rappelle avoir lu que Fernand Menchpit se posait des questions sur cette violence parce que lui il a été intéressé, c'est ce que montre Jean Botel dans son film Pérégrinassant, était intéressé à connaître ces cultures et il se serait pris d'amour pour une chinoise ou je sais plus quoi, etc. Et notamment il était très fasciné par les Chinois. Voilà. Et lui, il refusait la dimension de violence, mais toute occupation d'un territoire est violente. Voilà. On ne s'installe pas à Goa comme ça, juste en posant son, sa croix et sa petite maison. Quoi.
Voilà, pour apporter la civilisation, la foi dans le Christ. Bon, j'en passais le meilleur de ce discours colonialiste.
Et je voudrais juste, si tu peux me permettre, Arthur, je voudrais juste te dire que dans mon film, il n'y a pas que les films coloniaux, il y a beaucoup de films anticoloniaux qui ont tout de même été faits, certains à l'époque fasciste, qui est le film de Joaquim López Barbosa et Almed Faria, Faria d'Almed, et les films de Fernando Vázquez, de Jean Botelho, ensuite plus récemment de Yves Ferrer, les films de Margarida Cardoso, d'Hugo Vieira da Silva, qui sont une autre génération qui regarde cette histoire et disent, allez, que ce que dit Margarida, c'est notre histoire aussi. On ne peut pas dire que ce n'est pas notre histoire. Voilà. Et c'est pour ça que je fais le film. C'est pour dire que c'est une histoire qui n'est pas, qui a des côtés abominables, mais c'est une histoire et le cinéma doit servir à regarder tout ça d'une façon différente aujourd'hui, parce qu'en 2021, si quelqu'un fait un film, et il y a des jeunes portugais et cinéastes qui font des films, ils vont regarder cette histoire d'une manière encore différente de Botelho, d'une manière différente de Machil, d'une manière différente de Margarida Cardoso, et évidemment bien différente de l'époque salazariste.
Non, oui, tout à fait. Bon, il y a plusieurs films. Moi, je ne l'ai pas cité tous. Il y a Tabou, pas seulement, Post-Avançade, No Progresso, etc., etc. C'est des films, justement, qui donnent à réfléchir. Aria de Bigot, merci pour votre travail.
Merci.
Et je rappelle tous ceux qui peuvent aller vendredi 19 novembre à 19h au cinéma Saint-André-des-Arts, tout près de la place Saint-Michel. Merci.
Et à Pessac, près de Bordeaux, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui sont à Bordeaux ou qui seront à Bordeaux à ce moment-là, le 21 novembre à 10h40 au cinéma Jean Eustache dans le cadre du Festival du film d'histoire, exactement.
Merci Ariel, et à très bientôt.
Merci beaucoup, au revoir.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
E voltamos aqui ao direto, à segunda hora desta Passagem de Nível, do dia 14 de outubro. E eu lembro que a emissão é redifundida na noite de quarta para quinta-feira, às 0 horas, precisa entre 0 e as 2 da manhã. E no que diz respeito à emissão do passado domingo, dia 7, tem o podcast já no site da rádio. A emissão presente, bom, provavelmente amanhã, depois da manhã, mas enfim, ela aí está. On part au théâtre, on part à la musique, on va rêver, bien qu'on va parler de saudade, nostalgie. Mais qu'est-ce que c'est lourd, ça. Saudade. Bon, mais il faut regarder devant, mais enfin, tout ça à propos d'une pièce de théâtre, c'est plus que ça, c'est du théâtre, c'est la musique, justement, saudade. Une mise en scène de Alexis Dessous avec Isabelle Ribeiro, Dan Ingrid Schentz et Simon Gielen. Saudade, c'est l'histoire. Bon, le mieux, c'est peut-être de demander à l'auteur, Isabelle Ribeiro. Alors, une petite note de l'auteur. C'était quoi l'idée au départ? Je lis, hein. Qu'y a-t-il au-delà de cet horizon, de cet océan, de ces montagnes? Quelle couleur, quel ciel? Point d'interrogation. C'est tout un voyage, ça.
Oui, on a...
Bonjour
tout, déjà.
Merci.
Bonjour. On a toujours la saudade de ce qu'on a connu et qui n'est pas avec nous. Et puis, on a aussi la saudade de ce qu'on ne connaît pas, étrangement. Et l'idée, c'était de parler d'une génération qui est celle de nos parents ou nos grands-parents, en fonction des âges qu'on a, et de leur rendre aussi un petit peu hommage. Voilà, c'est leur parcours et un peu les raisons pour lesquelles ils ont dû partir et ce par quoi ils sont passés comme émotion. Ça m'a toujours beaucoup travaillé. Qu'est-ce qu'on ressent quand on doit partir, quand on doit fuir?
Alors justement, on parle de saudade, blues, Denninger, fado blues.
Bonjour, fado blues, c'est... Oui. En fait, c'est de la musique de l'âme, tu vois. Et la saudade, quand tu disais tout à l'heure que c'était lourd, c'est pas forcément lourd. On a la saudade forcément que de choses qu'on a aimées. Mm-hmm. Donc c'est pas forcément lourd. C'est lourd, ça peut faire mal, mais c'est jamais, comme je le disais dans ma chanson, c'est pesant peut-être, mais c'est toujours avec quelque chose qu'on aime, quoi.
Et c'est vivant.
Alors, en tout cas, c'est bien vivant. Mmh. Ce que j'ai apprécié dans l'idée de la pièce, c'est que on allait enfin rendre hommage à cette première génération qui a été qualifiée par certains une génération sacrifiée. Et il y a plein d'émotions qu'on peut retrouver dans cette pièce, et c'est ce qui m'a énormément plu, quoi.
Alors, la pièce va être jouée, il y a deux dates pour le moment. Ça va se passer justement le vendredi 19 et le dimanche 28, mais ce sera en Normandie. Bon, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui. Bon, la Normandie n'est pas loin, hein. Dans le temps, on partait de Paris, aller boire un café à Deauville. Bon, ça se fait. Hein.
Radio Alpha, c'est pour tous les Portugais. Sache que quand on est sorti de résidence, on a eu des Portugais, tu sais, c'était pas des représentations, mais on montrait en échange de la résidence quelques bouts, quelques extraits, et on a eu des Portugais qui étaient là. On avait même un des anciens chauffeurs d'Umage Soares. Tu crois ça, en Normandie? Il habitait ici dans le 91 à un moment donné.
Alors, ce voyage est passé également par Paris, par Brie-sur-Marne, Marie-José Rech, bonjour aussi.
Bonjour Arthur, bonjour à tous.
Alors, on avance un petit peu le calendrier. Aujourd'hui, on est le 14. Mais la prochaine rencontre mensuelle, ce sera le 21.
Dimanche prochain, oui.
Toujours pareil au Château Laurence.
Bon, on ne change pas quelque chose qui fonctionne bien. Donc voilà, on continue nos rencontres mensuelles. Mm-hmm. Toujours avec de la même façon, quoi, avec du fado, avec la chanson autre que fado, avec de la musique française, avec la poésie et tout.
Plein de choses autour, quoi.
Bah, évidemment. À manger, évidemment. Parce que comme je dis, là où il y a des Portugais, il faut qu'il y ait à manger. Sinon, sinon ça ne fonctionne pas.
Je vais faire parler de café gourmand, mais bon.
Bon, d'accord. Bon, ok.
On va y réfléchir.
Bon, à cette heure-ci, ce serait du bon jambon de pays. Bon, Marie-Géric, un petit bilan là de cette initiative que vous avez eue, parce que vous étiez dans les rues, vous aviez un stand. Il y avait toute une animation à Brie-sur-Marne, je crois. Donc, vous avez installé un stand.
Pendant, c'était pas un stand, c'était une boutique.
Une boutique éphémère.
Que la mairie loue donc aux artisans. Nous, on était la première association à avoir cette boutique. Et donc, bah, c'était pour l'occasion des 20 ans de l'association Gaivotte, qui a été couronnée, enfin, disons, par un beau concert avec le parrain de Gaivotte, qui est Georges Fernando, qui a été accompagné par le grand Cousteau de Castel, que les amateurs de fado connaissent bien. Et donc, effectivement, là, ça, on a eu cette boutique pendant 15 jours, et ça a été une expérience vraiment très, très positive, quoi.
Et d'ailleurs, c'est vous qui avez inauguré le nouveau théâtre de Brie-sur-Marne, quoi.
Pas en tant qu'association, oui. Disons qu'il a été inauguré une semaine avant, quoi, par la mairie, effectivement. Et nous, on a ouvert les hostilités, donc, en tant qu'association, avec ce magnifique concert dont Dan a fait les présentations. Voilà, donc bah, il est toujours là, Dan. Là où il y a Gaivotte, il y a Dan, sinon, fonctionnerait moins bien.
Les gens qui ne connaissent pas Cousteau de Castel et Georges Fernand, bon, Georges Fernand, en principe, tout le monde connaît, mais c'est quand même deux musiciens d'Amalia Rodriguez, quoi. Excusez du peu.
Ouais. Compositeurs, etc. etc.
Oui,
alors, revenons, soldats ici et là-bas. Alors, l'histoire. Il y a un frère, une sœur, accompagnés par un copain qui partent au Portugal.
Leur neveu, pardon.
Bon, j'ai mordu la pièce. Et je ne l'ai pas vu, c'est pour ça. Mais alors, justement, ils partent pour vendre ce qu'on appelle une maison secondaire, mais en réalité, c'était la maison probablement des parents. Donc, et là, ça va enclencher un certain nombre de choses, parce que vous parlez, vous discutez, donc il y a certains souvenirs qui viennent... Il n'y a rien en surface, qu'est-ce qui se passe?
Mais ça, c'est souvent, je crois, l'occasion dans beaucoup de familles, quand il s'agit de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de la maison familiale. Bah, d'un coup, il y a plein de sujets qui remontent à la surface, dont on ne parle pas forcément le reste du temps, parce qu'on a nos vies chacun de notre côté. Et donc là, il y a tout qui remonte, des souvenirs d'enfance, des choses joyeuses, mais des choses aussi... difficile, notamment pour le personnage d'Idalio, qui lui est un enfant qui est arrivé petit en France, donc qui a besoin aussi d'évoquer ça, ce qu'il a vécu de difficile en arrivant. Et puis, Johanna, la sœur, qui elle est née en France, donc elle a très bien vécu cette double culture. Donc, il y a tout ça qui remonte à la surface. Et puis, en même temps, ce qu'ont vécu les parents. Et parce qu'en fait, enfant d'immigrés, on a des bagages qui sont pas souvent les nôtres. Et on a besoin de faire un peu le tri dans tout ça, quoi. Et cette occasion-là, de cette vente de maison familiale, c'est vraiment le moment d'exposer tout ça, de mettre tout ça sur la table et de mettre les choses au clair, de régler des comptes aussi, quoi.
Alors, on a le metteur en scène en ligne. Bon, il est sur la route, il a dû s'arrêter exprès. Alexis Dessau, bonjour.
Oui, bonjour, ça y est, oui, je me suis arrêté. Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Alors, dans les notes d'intention, je lis, c'est une citation de Léon Tolstoï. Si tu veux parler de l'universel, parle de ton village. Quel est le rapport avec le mot portugais saudade ?
Non, le témoignage. Bien sûr, la conscience de notre vécu, de notre vie, et là, en l'occurrence, le témoignage de cette famille.
Mmh. Mais encore, parce que la mise en scène, bon, il y a la musique, il y a cette autre chose. Donc, comment on joue ? C'est le cas de le dire, bon, on joue triplement, entre guillemets, je peux utiliser l'expression. Parce que faut le mettre en scène, tout ça.
Bien sûr, faut le mettre en scène. Mais pour mettre en scène, il faut de la matière, il faut des êtres vivants. Et là, en l'occurrence, j'ai la chance d'avoir au plateau trois superbes comédiens et une auteure. Donc ça, c'est extraordinaire. Comédien, musicien, chanteur, comme vous le savez. Donc il y a des propositions. Il y a le vécu, l'expérience de vie. Là, on en parlait juste en préambule. Mais effectivement, celle de Dan, de Daniel ou d'Isabelle. Donc ils connaissent très, très bien le sujet. Et puis après, il y a des propositions qui sont faites sur un travail de lecture à table, qu'on puisse clarifier les intentions et rendre justement ce propos universel, parce qu'il l'est. Et la forme, en fait, elle s'établit. C'est ça qui est extraordinaire dans une bonne mise en scène, en fait. C'est quand on prend acte vraiment du moment présent et de l'énergie, le potentiel humain qu'on a avec soi. Donc au plateau, avec eux trois, je suis servi.
Alors apparemment, vous étiez en résidence pendant un certain temps pour travailler la pièce ?
C'est ça, c'est vraiment, pour moi, c'est fondamental d'être sur des périodes de résidence, parce que ça permet, alors les résidences comme ça, c'est une semaine de répétition, découverte du texte, fin d'écriture, première mise en place, travail musical, arrêt sur les choix des chansons, une deuxième un peu plus tard, donc vous voyez, ça a le temps de mûrir un petit peu, il y a la croissance qui s'opère aussi pour leur interprétation, parce qu'après, ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit les trois personnages, et plus les comédiens et auteurs et musiciens, c'est vraiment les trois personnages, pour qu'on soit saisi par l'histoire. Et donc, une troisième résidence avec une sortie de résidence. Oui, effectivement, et le spectacle, là, il est prêt, même s'il est tout prêt. Tout frais, là, ça va être leur première, le 19, dans le cadre du Festival Novembre en Normandie. Et donc, on a hâte.
Mmh. Je lis le texte, apparemment, c'est vous. La résidence secondaire portait bien son nom, même si elle restait à la pensée pendant leur cœur.
Mais oui. Ça, c'est extraordinaire. C'est une métaphore superbe pour les déplacements. On peut être en déplacement, on peut être en vadrouille, on peut être dans du secondaire, mais en fait, fondamentalement, on sait où est notre véritable maison. Bon, moi, j'ai la foi. Pour moi, l'édifice, il est plus spirituel. Mais il n'empêche que ça aussi, c'est un témoignage pratique de se retrouver avec. On n'est pas là par hasard. On n'est pas dans une famille par hasard. On n'est pas dans une descendance par hasard. Et là, on a une responsabilité, on a un témoignage. Donc oui, on porte cette maison, notre petite pierre, cet édifice, on porte notre maison en résidence principale.
Oui, parce qu'une maison a une histoire.
Une maison a une histoire, oui. Et elle a une histoire parce qu'il y a des êtres humains qui y passent. Sinon, ça peut être un magnifique bâtiment. Et c'est même triste quand on idolâtre des bâtiments. Vous voyez, ce qui est merveilleux, c'est de réaliser que ce sont des pierres, si belles soient-elles, des pierres mortes, mais vivante, parce que il y a des êtres vivants qui passent. Et là, donc, il y a une histoire, en effet, qui s'inscrit. Et dans ces cas-là, cette maison, elle témoigne de ces traces-là, elle représente ces êtres vivants.
Mmh. Oui, parce que mine de rien, c'est notre passé.
Bien sûr.
Oui. Et ça, c'est très important, parce que on a un dicton en portugais, je vais essayer de traduire en français. Oui. Si les murs pouvaient parler, qu'est-ce qu'ils ne diraient pas ?
Oui, extraordinaire. Mais bien sûr. Mmh. très attentif à ça parce que moi je découvre, je rentre de plein pied dans cette dans toute cette culture et je trouve ça tellement riche, tellement extraordinaire. Et je me dis, mais oui, je suis très heureux de pouvoir mettre en avant à travers cette mise en scène et dans le développement de, ce, de cette pièce qu'on veut vraiment aller en région, donc en national, mais aussi ailleurs, parce qu'on a la chance d'avoir des comédiens et comédiennes qui parlent plusieurs langues, qui sont même polyglottes pour certains, sur un certain. Et transporter ce témoignage-là, justement. Parce qu'effectivement, il peut s'appliquer à plusieurs cultures, mais là, en l'occurrence, cet éclairage, moi, il m'intéresse énormément, quoi. La saoudade, c'est quoi la saoudade pour chacun d'entre nous, comment l'évocation du fado, cette culture, ces odeurs, enfin, la restitution de ces mémoires sensorielles et de ces mémoires affectives pour les rendre tout à fait palpables au moment présent.
Et ça passe par la musique aussi.
Ça passe aussi par la musique, parce que la musique, ça a ce potentiel extraordinaire d'avoir une élévation de l'âme. C'est-à-dire que quand les mots sont limités, la musique, elle continue. Il n'y a que la musique qui peut transporter la suffisance des mots quand on n'est pas simplement en esprit, quoi.
Alexis Dessau, merci. Vous pouvez reprendre la route. Il faut faire attention.
C'est gentil parce que je joue la Kine à 15h30 à Douai et je pense très fort à vous. Merci pour cette
Merci bien. Merci
merde,
bien.
merde, Alexis.
Je prends. À bientôt, les amis. Salut. Et bonjour à tous les auditeurs. Au revoir.
Alors, justement, on a parlé de musique. Dan, t'es pas venu tout seul. T'es venu accompagné avec ta maîtresse, c'est ça?
Oui, c'est enfin ma maîtresse.
Une
de mes maîtresses. D'ailleurs, c'est une qui est restée un peu cachée à la maison que je sorte spécialement pour le spectacle. Mm-hmm. Tu te souviens?
Dorme una menina estrella d'ava. Já procurei. Não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber na noite escura, sobre o teu sorriso de encantar, ouvirás cantando nas alturas, trovas e cantigas de embalar. E cantigas de embalar. Trovas e cantigas muito belas, afina a garganta, meu pastor. Quando a luz se apaga nas janelas, perde a estrela d'alva o seu fulgor. Perde a estrela d'alva o seu fulgor.
C'est José Afonso.
Exactement.
Alors justement, José Afonso, bon, parce qu'on parlait bon, finalement les confidences et les chansons, ça nous permet de découvrir un certain nombre de choses, parce que bon, je ne sais pas, vous êtes peut-être dans deux situations différentes, d'origine portugaise. Isabelle, t'es née en France déjà.
Oui, bon. Oui, je suis
donc,
à Paris.
Quel est le rapport que tu as justement avec... la saudade, avec la poésie, etc. Les chansons, ton rapport est différent de celui de Dan.
Oui, ben, déjà avec la culture d'origine qui était très présente à la maison, Radio Alf qui était très présente à la maison.
Et je l'avoue, sur un parti, je suis un parti coupable.
Et effectivement, voilà, des chansons plutôt populaires quand même qu'on écoutait en France. Et je sentais que mes parents, ils avaient voilà ce besoin de d'avoir toujours ce lien avec le pays. Et moi, j'ai grandi avec avec cette présence de ce à la maison, ce personnage en plus qui était le Portugal. Et donc la saudade, j'ai été tout de suite pleine de quelque chose. Je pense que comme plein d'enfants d'immigrés, on sent le Portugal très très fort en soi, mais on n'arrive pas à le situer, on n'arrive pas à se situer en fait dans ce Portugal et dans cette histoire. Et quand on va au Portugal, on est super heureux, on voit toute la famille. Et puis on est en vacances. En même temps, on sent qu'il y a quelque chose qui est un peu différent. Puis quand on revient en France, on revient plein de tout ça et on sent qu'aussi au fond de soi, il y a quelque chose de différent par rapport aux autres. Mmh. Mais ça prend du temps à mettre un mot dessus, à comprendre.
Oui, mais quand on parle, Isabelle, quand on parle de culture d'origine, une chose c'est naître au Portugal et vivre jusqu'à 7, 8 ans, 10 ans. Et une autre chose c'est avoir la culture française, parce que même nos parents, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner, puisque nous on a un vécu différent déjà par rapport au pays, leur pays d'origine. Mm-hmm. C'est pas évident.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses déjà qui se transmettent sans les mots. Il y a plein de choses qu'on capte, on est des éponges quand on est enfant, et voilà, on ressent toutes ces émotions, toutes ces douleurs, on assiste à des choses aussi. Moi, je me souviens toujours de ces images de fin de vacances où je vois mes parents pleurer, voir son père pleurer tous les ans, enfin, c'est assez dur, c'est assez choquant, ça marque, et tous ces visages, tous ces sourires qu'on n'est pas sûr de revoir l'année d'après, et on porte toute l'année ces choses-là en soi, et ça prend une place... Même si on n'en parle pas tout le temps, après tous les jours, il y a quelque chose qui est là, qui est présent. Et en grandissant, déjà, essayer aussi, voilà, comme je disais, de se placer par rapport à cette culture, à ses origines, savoir qui je suis portugaise, je suis française, je suis quoi, je suis qui, et se rendre compte...
T'es tout simplement toi-même, non ?
Voilà, c'est ça, mais c'est comprendre quelle est la part de toutes ces choses-là en soi. Et une fois qu'on arrive à mettre le puzzle en place, ben, on comprend plein de choses, et puis après, on fait aussi le tri dans ce qu'on veut, dans ce qu'on veut pas. Et
Isabelle, finalement, c'est un patchwork.
C'est un patchwork, c'est comme l'affiche, là. Ouais, l'affiche, voilà, toutes ces couleurs. Et, non, c'est vraiment ça, on est fait de tout ça. Et puis c'est très, très présent. Et puis, plus on avance dans l'âge, et plus ça prend quand même de la place. Mmh. Et ça résonne, quoi.
Moi, je pense que ça a pris une place énorme dans ton travail, Dan, au niveau d'auteur, compositeur. Ça se ressent parce que t'as la musique, bon. Entre le blues, le jazz, sonorité portugaise, sonorité africaine, etc. Ça.
De toute façon, la recherche, c'est aussi ça qui m'a intéressé. Et ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est le fait que c'était mis en scène par quelqu'un qui n'était pas d'origine portugaise. Donc c'est pas un spectacle pro-portugais, c'est pas un spectacle portugais pour les portugais. C'est un spectacle qui, bon, on prend le fond de commerce et c'est la lusophonie, parce qu'il y a quand même des beaux clins d'œil... On peut pas tout dévoiler, mais il y a des beaux clins d'œil à la musique capverdienne, enfin à toute la lusophonie. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'était justement la vision d'un Français ou quelqu'un qui n'était pas portugais sur le spectacle. Après, c'est la vision de trois générations différentes. Il y a trois générations qui seront vues, puisque en fait, il y a évidemment la première fratrie qui se retrouve là-bas au Portugal pour vendre cette maison et tout le vécu en sort. Mmh. Et ensuite il y a une espèce de flashback et on voit la première génération qui est partie et tout ce qu'ils avaient en tête et qui arrivera certainement pas, mais c'était en tout cas leur espoir. Ouais. Et en tout cas, c'est de mettre des points sur les i sur certaines choses et sur la présentation du spectacle, on parle de voyage, même du plus petit, je reviens d'un sommeil rempli de rêves. Et en fait, c'est ce voyage, un peu comme les grands navigateurs, hein, et c'est cette saudade de voir ce qui nous attend, mais toujours pour revenir. C'est avec la vision du futur, mais toujours pour revenir sur les racines.
Mais le problème, c'est quand on revient, on n'est plus le même. Les choses sont plus les mêmes. On a
oui, mais ça, regard. Quand on
ça
a 20 ans,
on a avancé.
Quand on a 20 ans, excuse-moi, quand on a 20 ans ou peut-être un peu plus et qu'on va quitter son pays, que à cette époque-là, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone, il y avait quoi que ce soit. Donc c'était une vraie aventure. Et quand on a 20 ans, on ne sait pas tout ça. On ne sait pas que quand on reviendra, ça ne sera plus jamais pareil. D'ailleurs, José Vira, dans les films qu'il disait, justement, c'était, il y en avait qui étaient conscients peut-être et qui savaient que cette génération qui allait partir était une génération sacrifiée. Mais bon, ça, ils le savaient pas.
On va faire une petite pause parce que apparemment, bon, on ferme le rideau, on va changer un petit peu le décor. Troisième personnage de la pièce, et papa est avec nous, mais c'est sa musique. Alors justement, mais cette musique, excusez-moi, il s'agit de Simon Gielen.
Guylaine,
je m'excuse. C'est pas un nom breton, ça.
Comment ?
C'est pas un nom breton,
non,
ça.
Non, c'est belge.
C'est belge, mais la sonorité de la musique.
Ah oui.
On dirait la Bretagne, là.
C'est un musicien de... Alors, sa spécialité, c'est la musique traditionnelle. Donc voilà, c'est les musiques des régions de France, mais aussi des musiques anglaises, irlandaises.
Il y a le côté celte, et je pense que c'était une idée justement d'Isabelle, parce que c'est un ami à eux que j'ai rencontré grâce au spectacle, et une idée d'Isabelle et d'Alexis de faire appel à à son savoir-faire de musique traditionnelle. Et moi, j'ai aimé parce que, justement, quand on parle de musique portugaise, très peu savent que la musique celtique fait partie aussi de notre musique traditionnelle. Mmh. Et même de vieux instruments, si on fait le cours de l'histoire par rapport à la guitare, avant qu'elle revienne comme on la connaît, le Portugal a beaucoup plus d'histoire qu'on le croit.
Ah oui, les corps de muse, ça existe au nord du Portugal.
Exactement.
Il y a des groupes qui participent au festival annuel celtique.
Exactement. Mais ils ont eu du mal, hein, parce que tu sais que j'ai pas mal de musiciens et qui sont issus de la scène celtique. Et les Portugais ont eu du mal à s'imposer sur les Fesnos à Quimper, mais ils y sont arrivés petit à petit.
Oui, mais tu sais, grâce à...
Mais même dans le centre. Ouais, hein.
Mais grâce à certains Galiciens.
Nones. C'est un... Et alors justement, Simon accompagne aussi deux Galiciennes.
Mmh. Oui, c'est vrai.
Moi j'ai l'impression qu'il va finir par être luso comme nous aussi. on va être obligé de demander sa carte d'identité portugaise après.
Alors j'ai parlé d'une pause, on changeait de décor exactement. On passe à deuxième partie de la pièce. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez nous visualiser un petit peu pour qu'on sache? Bon, je l'ai pas vu, je peux pas parler.
Ça n'a pas vraiment été joué puisque la première c'est vendredi justement.
Non,
on essaie d'en parler un maximum et moi je sais jamais trop s'il faut en parler ou pas. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on bascule sur cette première génération qui est partie du
Donc Portugal. Ça veut dire une fois que vous arrivez au Portugal, la réflexion, etc., un certain nombre de choses, et là vous avez une prise de conscience par rapport.
On ne sait pas, après, c'est libre, libre à chacun de penser ce qu'il veut. Je sais, moi, que Manu, notre neveu luso-belge dans l'histoire, s'endort, et d'un seul coup, on se retrouve au Portugal.
Ouais,
par quel miracle, je ne sais pas, mais c'est le théâtre dans le passé.
Bah, ça, c'est
dans le passé, oui, parce qu'on y est déjà au Portugal.
Donc, c'est le 19 et le 28.
En tout cas, je peux dire, si tu permets, Arthur, je peux dire que, à mon avis, si c'est un spectacle qu'on, j'espère qu'on aura la chance de défendre très rapidement sur la région parisienne, parce que je sais que les Portugais y sont nombreux, mais que j'aimerais défendre un peu partout en Europe, hein, parce que je suis allé chanter en Suisse, en Belgique et tout ça, et il y a des Portugais partout. Mmh. Et comme je le disais tout à l'heure, à Dieppe, de retrouver des Portugais là-bas, oui. c'est hallucinant. Oui. Chauffeur de marche.
Moi-même, j'ai vécu 9 ans. Hein,
et voilà, exactement. Et tu sais que je suis pas comédien à part entière. J'y vais de temps en temps avec mes spectacles pour enfants. Et pendant les répètes, que ça soit moi ou Isabelle, il y a eu des vrais moments qui nous ont chamboulés. Enfin, je veux dire qui nous rappellent. C'est pas notre histoire, mais il y a forcément plein de bouts qui nous touchent, qui rappelle notre vécu ou le vécu des nôtres. Mmh. Et je pense que c'est non seulement une reconnaissance de cette première génération qui a pris beaucoup de risques et qui a cru à son avenir, une espèce de reconnaissance. Et je pense que c'est... Je pense qu'ils vont se retrouver pas mal dans ce spectacle.
C'était important d'en parler sans être non plus dans une espèce de revendication, mais d'en parler, dire qu'on... on n'oublie pas, quoi. Enfin, je veux dire, nous, on est là, mais on n'oublie pas tout ce qui s'est passé avant, et on est tellement reconnaissant pour tout ce qui s'est passé avant. Quand je pense à mes parents, à ma famille et à tout notre entourage, c'est quelque chose qui est très, très présent en moi, et j'ai vraiment conscience de tout ce qui a pu être mis en place pour que nous, on soit là comme ça aujourd'hui. Enfin, c'est quelque chose qui me touche profondément.
Mais finalement, est-ce que le thème ne dépasse pas largement les gens d'origine portugaise, parce que là, on parle de déracinement.
Oui, tout à fait.
Oui,
bon,
oui.
Alors,
exactement.
Bon, on a les Bretons de Paris, mais on a aussi les Portugais de Paris.
Bien sûr.
Donc, il y a, bon,
non, mais ce qui est étonnant, c'est que
voilà,
lors de cette sortie de résidence, en fait, donc, il y avait ces deux personnes portugaises, donc c'était étonnant, mais il y avait plein d'autres personnes qui n'étaient donc pas du tout portugaises, mais qui ont complètement été touchées par cette histoire, parce qu'en fait, c'est d'où la phrase de Tolstoï, parce que ça touche l'universel, parce que tout le monde a dû quitter une maison de famille, ou que ce soit en France ou ailleurs, ou dans un autre pays, donc ça parle en fait à tout le monde, au-delà de ces déportés.
Même les Portugais qui ont immigré, enfin, je ne sais plus quel terme, c'est immigré...
à l'intérieur de pays.
Voilà, à l'intérieur du pays. Et on en parle, même dans le...
On en parle aussi
de ça. Donc. Ah
ouais. Bah, il suffit de voir ici les Auvergnats, hein, comment ça se passe. Il y a une attention.
Il y en a des Portugais en Auvergne aussi.
Et oui, où est-ce qu'il n'y a pas de Portugais? Bonne question.
Estás livre e eu estou livre, e há uma noite para passar. Porque não vamos unidos, porque não vamos ficar na aventura dos sentidos.
Tu estás só e eu mais só estou. Tens o meu olhar, tens a minha mão aberta, à espera de se fechar nessa tua mão deserta.
Vem com amor, não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem com amor, é o momento em que eu me dou, em que te das.
Tu que buscas companhia, e eu que busco quem quiser ser o fim desta energia.
espera do melhor que já não vem. E a esperança foi encontrada antes de ti por alguém. E eu sou melhor que nada. Vem com amor, não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem com amor, é o momento em que me dou, em que me dás.
É obrigadíssimo. Bon, Dan, ça se voit que tu as un certain nombre de références musicales, cher jeune homme.
Alors, tu sais comment j'ai rencontré Isabelle ? En fait, cette fille m'a défié une fois au téléphone. Elle m'a dit, je voudrais chanter avec toi. Alors, mon ego, forcément, a parlé. Elle a dit, bah, je veux bien, mais je veux quand même entendre ta voix. Et texto, elle m'a envoyé direct deux morceaux, comme ça, a cappella. Et c'est vrai que j'ai apprécié la voix directement, et puis j'ai apprécié, en radio, il ne faut pas que je dise de gros mots, donc j'ai apprécié la façon de faire. Donc, donc je l'ai invité dans dans un endroit où je ne vais plus, parce que c'est plus mon pote qui est là-bas au Belvédère à Champigny, mais je l'ai invité à venir chanter avec moi. Et elle m'avait déjà proposé cette chanson. Ouais. Et à l'époque, j'étais pas forcément très prêt. J'étais concentré sur cette représentation. Et je trouve ça rigolo maintenant qu'elle me propose de la chanter dans ce spectacle. Et d'ailleurs, c'est une chanson qui a failli partir, qui est revenue. Et puis voilà.
Elle est restée.
Et elle est restée.
Ouais. Elle est là maintenant dans la pièce.
Ouais.
Passage Niveau, on est pratiquement à la fin de ce dimanche 14 octobre. Je répète que l'émission est diffusée dans la nuit du mercredi à jeudi à partir de 0h, 02h, comme il a écrit Dan, la nuit de quinta feira. Bon, comme ça, c'est clair et net, mais enfin. Marisa Rodrigues, Henrique. Bom, desculpa, já te queria batizar, mas é que bom, estamos sempre a tempo de ter um batismo
claro,
mas sem ser religioso, pode ser o batismo republicano também. já estamos a falar para o dia 21 de novembro com a Mónica Cunha.
Sim, a Mónica Cunha, que vai estar então nesse domingo, acompanhada pelo Manuel Miranda e pelo Casimiro Silva. Vai ser o trio do dia.
Bom, e ainda há dois que são de piliers de la maison déjà, não um petit peu.
Piliers,
ils viennent souvent.
Tu parles de Miranda? Miranda, oui, il est souvent là, c'est vrai. Il est souvent là, il est souvent présent, il aime notre association, donc c'est très bien, quoi. Nous, on est contents de l'avoir. Mais on tourne quand même. Je veux dire qu'on n'a pas des musiciens
attitrés.
Donc le mois prochain, ça sera d'autres. Et puis,
est-ce que vous avez pu reprendre le rythme de carrière? Comme on dit, dans la mesure avec la Covid, etc., il a fallu tout relancer, ou est-ce que les gens étaient là?
Ah, les gens étaient là, les gens étaient présents, pas forcément les mêmes, c'est ça qui est marrant, on a eu plein de nouvelles têtes, hein, Dan?
Ce qui est bien, c'est que le fameux concert avec Oustad Kastel, ça a ouvert les portes de pas mal de gens.
Mm-hmm. Et la boutique aussi.
Et donc, du coup, il y a de plus en plus de Français. Ça, c'est ça qui est bien, c'est ce que j'apprécie aussi dans la sauce de Guy Vaught. Et puis de toute façon, comme c'est quelque chose qui est régulier tous les mois, en général, tous les troisièmes dimanches du mois, à part cette année, au mois d'avril où on l'a décalé.
C'est Pâques donc, oui.
Comme c'était Pâques, on s'est dit on va pas leur laisser, le choix terrible,
non,
ou Guy Vaught ou la famille. Alors
non,
on a dit, bon.
Dan, on ne voulait pas offrir les chocolats. On n'a pas les moyens.
On ne voulait pas servir les cloches.
Comme ça, les gens, ils peuvent programmer leur journée. Mais je pense que pour le 21, donc je rappelle, ce mois-ci, les rencontres mensuelles vont avoir lieu le 21 novembre à 16h, comme d'habitude, Château-Laurens, 11 avenue Georges Clémenceau, à 200 mètres, la station de RER A.
Ah oui, c'est très facile de venir chez nous.
Donc
oui,
y a pas... Alors, mais il va y avoir aussi la présentation d'un livre.
Oui, on va avoir le dernier recueil de poésie d'Antonio Top. Donc, il va être présenté. Donc, dont, je m'excuse, j'ai oublié de l'apporter, donc je n'ai pas le titre en tête. Mais donc, il sera présent. Il y a Dominique aussi, Stonesco, hein, qui sera là. Et donc, eh ben, il y aura de la poésie, forcément, ce jour-là. Donc, de son recueil, on va en lire quelques extraits. Ça nous arrive hein, déjà de lire la poésie aussi pendant nos rencontres. Mais là, c'est sûr, et on aura. Il y aura même plus d'un poème. Et donc, voilà, du fado, de la poésie, de la musique.
Des chansons françaises.
Des chansons françaises.
Et pas toujours dans le même style. Hein. C'est pour ça qu'on décloisonne à Guy Vaught. Donc du coup, ça ouvre. Ça sert à rien de faire pleuvoir sur la mer, hein. C'est comme on dit au Portugal.
Non, mais en même temps, ça ouvre aussi. Ça intéresse pas que les Portugais.
Mais c'était ça le but aussi. Hein, c'était de s'ouvrir, de faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas le fado, mais en même temps de faire découvrir des artistes français, aux Portugais qui sont là et qui ne les connaissent pas. Et comme je suis entourée quand même de pas mal de musiciens et de chanteurs à travers Patrick Pernet, là, qui est notre pianiste, qui est toujours là, qui accompagne donc tous ceux qu'ils veulent, qui chantent autre chose que du fado. Donc on a un pianiste sur place. Il suffit de lui demander telle ou telle chanson dans les standards français connus, bien évidemment, parce que sinon c'est compliqué, sinon il faut des répétitions. Et donc voilà, il n'y a pas...
C'est un peu au fade vadille, mais en mode française, quoi, tu vois.
C'est un mélange, on revient au début de notre entretien. Finalement.
Ah non, mais tout ça, ça se rejoint, moi je me retrouve là-dedans sans problème.
Heureusement, vous êtes quoi, quelle est votre origine? Bon, j'ai plein d'origines, je suis moi-même.
On est un mélange, salade russa.
Voilà. On a cet avantage par rapport à cet nombre de personnes que soi-disant n'ont qu'une seule culture. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire, mais enfin, on dirait qu'ils vivent pas en société. On arrive pratiquement à la fin, mais...
Mais justement... c'est ça qui est riche, Arthur, c'est justement de prendre un petit peu ce qu'il y a d'un côté et de l'autre.
Bon, alors, revenons un petit peu à notre enfance. Quand tu étais pequenine, quand Monique Cugne, quitte à faire, on revient à l'enfance.
Ah ben, ce sera là le 21, donc.
Acabada de nascer, acabada de nascer, ainda mal abri os olhos, ainda mal abri os olhos, já era para te ver. Acabada de nascer. I'm
Mónica Cunha, quando eu era pequenina, Mónica Cunha, que vai estar, bom, podemos dizer português um bocadinho, dia 21 de novembro, a partir das 16 horas, no Château Laurence, 11 Avenue Georges Clemenceau, Brice-sur-Marne, no quadro dos encontros mensais da Gaivota Maria José Henriques. Muito obrigado.
Arthur.
Sim, temos aqui umas mulheres para as pessoas ligarem para aqui e irem diretamente ao Facebook, às redes sociais, porque damos números de telefones pela rádio, de maneira que Gaivota, vão ao Facebook, Gaivota e tem todos os detalhes para isso. Isabel, Dan, eu sei que no dia 19, bom, no,
muito obrigado.
Na Normandia, mas enfim, o importante é que je vous dis merde, alors.
Eh bien, on prend.
Vous prenez? Bon, très bien. Bon, ouais. Ça m'arrange. bon, en attendant que Saudade, ici et là-bas, soit dans la région parisienne. Mm. C'est tout le mal que je vous désire.
Bon, on va tout faire pour aussi. Hein. Ouais. Ouais. Je veux dire, même, on est là nous, pour au ça. Niveau de l'association, on va essayer de faire le maximum. Quoi.
C'est bien, voilà, tu vois, il y a des portes qui s'ouvrent déjà.
Voilà. Obrigado igualmente ao Manuel, que está do outro lado, e espero estar aqui no próximo dia 21 de outubro para mais uma emissão. E aqui fica uma novidade na Rádio Alfa, para aqueles que queiram saber mais. Quinta-feira, dia 18 de novembro, às 20 horas, no Goethe Institute, que se encontra numa 17 Avenue Diana, em Paris, de 16. Trata-se de um jazzman português, tal como eu gosto dessa boa música, é o Filipe Raposo. Novidade, relembro, quinta-feira, 18 às 20 horas, Goethe Institute, 17 Avenue Diana, em Paris, de 16.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível.